Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, nous avons sorti notre studio mobile, usé les roulettes, la gomme de nos roulettes, afin de nous installer ce soir au RIF, le bar associatif de la MJC Bel et Bas. Vous pouvez bien entendu nous rejoindre, hein, la porte est ouverte. Vous pouvez participer à l'échange que nous allons procéder, auquel nous allons procéder. Cette émission est co-réalisée avec la MJC Bel et Bas et l'association Principe Actif, bien entendu. Nous attendions Laura au micro qui a organisé de main de maître toute cette rencontre. Elle s'est cachée, en fait, on va pas se mentir, elle s'est cachée derrière le comptoir pour être certaine de ne pas prendre la parole, ce qui nous empêchera pas de la saluer. Merci Laura, en tout cas, sur cette belle organisation. Ce soir, le thème des échanges que nous aurons est autour de l'engagement associatif. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui, cet engagement associatif? Comment il se construit? Qui en sont les chevilles ouvrières? Voilà, nous aurons une heure et demie devant nous pour évoquer ce thème de l'engagement associatif. Autour de nos micros pour échanger sur cette thématique, nous aurons l'association Vénus in Fuzz, nous aurons l'association Accueil Ville Française, nous aurons l'association des jeunes cinéastes et bruitiens, nous aurons également l'association L'Atelier, et puis bien entendu, vu que nous sommes dans leurs locaux, l'association de la MJC.
Principe Actif 102.4 FM. Principe Actif 102.4 FM. Principe actif.
Voilà, et puis comme nous espérons ne pas rester que entre nous, toutes les personnes qui souhaiteront prendre la parole durant cet échange sont les bienvenues, bien entendu. J'ai même envie de dire qu'elles sont indispensables. Je vous propose en un premier temps, parce que les auditeurs ne connaissent pas forcément toutes les associations dont nous venons de parler, que nous ayons une courte prise de parole. Je précise dès le début, une courte prise de parole sur un petit peu quel est l'objet des associations que nous avons autour de la table, et puis globalement qu'on parle aussi un petit peu de la taille de ces structures, parce que nous avons un panel assez représentatif en fait de ce que peut être une vie associative entre de grosses structures et de plus petites structures. J'ai envie de vous proposer à Vénus in Fuzz peut-être de vous présenter un petit peu quel est l'objet de cette association, et puis un petit peu son existence et un petit peu à quoi elle ressemble dans le profil associatif ébrouissant en particulier.
Bah donc, je pense qu'on est une des plus jeunes associations présentes ce soir, parce que ça fait 2 ans, on vient de fêter nos 2 ans en fait. Et on s'est regroupé avec une petite dizaine d'amis autour de la musique. En fait. C'est parti de là, on a dit on aime bien la musique, c'était un peu égoïste au départ. On a monté ça parce qu'on aimait bien la musique, il y avait des manques pour nous, et on s'est dit on va organiser des concerts, enfin ça a commencé comme ça, et puis après on a édité un fanzine, et puis on a fait une émission de radio aussi sur Principe Actif, je crois.
Oui, tout à fait.
On est passé de d'une émission par mois à une tous les 15 jours là.
Et puis une programmation régulière, très régulière.
Assez soutenue.
Voilà, plutôt soutenue, voilà.
Enfin, on essaie, ouais. Il y a des difficultés de. Pour organiser les choses, mais bon, c'est.
Alors, on a l'occasion d'y revenir sur les difficultés que peuvent rencontrer toutes les structures que nous avons autour de cette table, et à mon avis, de manière plus globale, les difficultés globalement des associations. Mais on parlera des joies, bien entendu. Vous évoquiez cette notion de projet associatif, un petit peu égoïste au démarrage. Ça partait du fait que vous trouviez qu'il n'y avait pas ce qui vous convenait. D'où part l'idée de créer une association?
C'était un peu ça. Puis on avait, certains vu nos grands âges, on avait un passif musical et on voulait s'en servir aussi, faire partager ça aux gens. Quoi.
Très bien.
Connaissance des groupes et tout ça.
Il y a du partage là-dedans. Vous êtes en train
de dire
que c'est une idée égoïste, mais finalement elle part d'une idée de partage.
Mais ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de gens et de rencontrer beaucoup de groupes qu'on aime plus intimement. Et ça, c'est aussi, pour nous, c'est aussi vachement bien.
Ouais, voilà, c'est égoïste et collectif. Mmh. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On y reviendra justement au bout d'un moment quand on est bénévole d'une asso. Finalement, est-ce qu'il y a, on dit toujours que le bénévole s'investit, mais finalement, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? On en parlera un peu plus tard. Vous avez vu un peu le discours que je tiens là? Je vois Cécile au loin trouver bizarre ses propos, mais si, il y a un retour sur investissement, j'imagine. J'ai envie d'inviter au micro Françoise pour nous parler du coup d'une deuxième association que nous avons autour de nos micros, à savoir Accueil Ville Française. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Quel est l'objet de votre structure, de votre association, et puis quel est quel est un peu son volume, alors, sa durée, sa vie, à quoi ressemble-t-elle?
Contrairement au précédent, nous sommes un peu plus vieux. Nous avons je pense presque 40 ans d'existence sur Évreux et en Normandie. Donc, notre rôle, nous, c'est d'être au service des nouveaux arrivants, ceux qui viennent dans la région à une époque pour leur profession, leur emploi. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de jeunes retraités qui reviennent dans leur région. Donc, on leur propose des activités.
Alors du coup, autour de quelles activités ça s'articule en fait ce projet?
On a plein d'activités.
Quelques exemples pour qu'on soit un petit peu dans le concret?
Alors, c'est très varié. Hein. On a de la marche, bien sûr, à plusieurs niveaux. On a du dessin, de la peinture, des ateliers cuisine, de l'informatique... des conversations de langue, on a des sorties culturelles, voilà, entre autres.
Finalement, tout un tas d'actions qui mettent en lien les gens, enfin, en tout cas, c'est ce que je sous-entends dans les activités que.
C'est ça, c'est pour permettre aux gens de se retrouver. On fait quelques soirées également pour permettre à tout le monde de se retrouver, anciens, nouveaux. Voilà. Nous avons à peu près plus de 310 adhérents. Et l'association ne fonctionne que sur le bénévolat. Et il y a 55 bénévoles qui sont là.
Très bien, bah nous aurons l'occasion de revenir sur vos actions et sur les éléments qui vous paraîtront intéressants. N'hésitez pas à intervenir, bien entendu. Nous avons également Jacques de l'association Les Jeunes Cinéastes Ébrouissiens. En quelques mots, en quoi consiste cette structure? Quelle est sa durée et que représente-t-elle en fait, cette association?
En fait, c'est une longue histoire puisque l'association existe depuis 1960. Donc on est une des plus anciennes, je pense, maintenant à Évreux. En fait, on a toujours été dans une double utilisation, si je peux dire. Faire des films, bien entendu. Ça a commencé par le film en pellicule, le cinéma, et puis après la vidéo. Et puis également faire des festivals. Là, on vient de terminer le Festival international du court-métrage d'Évreux dans les écoles. On a quand même fait 4000 élèves. Donc, pas qu'à Évreux, c'est en sud de l'Eure également. Enfin, ça demande vraiment un très très gros travail. Et puis aussi, on fait des films sur les événements à Évreux, des films... pour des associations aussi, voilà. Donc en fait, on est très investi, surtout au niveau scolaire.
D'accord, bah vous serez l'exemple parfait d'une durée de vie longue d'une association, et puis bah, surtout comment on renouvelle un projet associatif, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais bien souvent les associations sont porteuses de ce qu'on pourrait appeler un projet associatif, et ça veut dire des choses bien souvent.
C'est pas évident.
Bah, j'imagine. Franck Dubois, je vais vous inviter à vous rapprocher, s'il vous plaît, et de vous emparer d'un micro rouge, par exemple.
Bonjour.
Donc, l'association L'Atelier, qui est-elle, que fait-elle, pourquoi est-elle?
Alors, L'Atelier, elle est entre les deux, puisqu'elle a quoi, 20 ans, 30 ans, elle est de 99. C'est une association un peu chiante, qui programme de la musique chiante.
Bah, y a sûrement des raisons.
Ouais, enfin, elle est pas chiante, moi, enfin, c'est ce qu'on me dit, hein, mais c'est une musique un petit peu pointue et pas forcément facile. Et donc, depuis 99, on essaye de proposer des choses pas faciles à un public qui, a priori, a pas la culture pour. Et voilà. Je peux pas te dire autre chose.
Alors pourquoi une structure pour propager justement cette musique qui, alors on a eu l'occasion de travailler ensemble ponctuellement et effectivement elle est pas facile d'approche,
non,
cette approche artistique. Pourquoi vouloir la promouvoir, la propager?
Parce qu'elle est nécessaire, parce que c'est une partie de la création contemporaine, parce que ce sont des gens qui bossent, qui sont pointus, qui ont une reconnaissance et qui n'est pas visible. Et pour moi, ça me paraît super important. Ça fait partie de la création. Voilà.
Très bien. Vous voyez, il y a déjà des valeurs dans ce que vous nous dites. On aura l'occasion de revenir sur cette notion de valeur parce que je crois que c'est ce qui porte aussi un petit peu toutes les associations, en tout cas une bonne partie des associations. La dernière structure que nous allons présenter, c'est la MJC Bel et Bas. Alors, à qui je m'adresse, Philippe Bordier, vous êtes le président de cette association. On va peut-être... peut-être un microfilaire, ils sont plus jolis, le son est plus joli. Et puis, on va faire une jolie voix à Philippe. Pardon, Cécile, prenez un micro, on fait tout à vue, là, maintenant. Pardon. Et oui, Odile, qui le sait. Mais on va la présenter juste après. Odile, un petit instant. Philippe Bordier. Oui. Alors, qu'est-ce que la MJC, dans quel paysage s'inscrit-elle et quelle est sa durée et qu'est-ce qu'elle représente?
Eh bien, la MJC est une ancienne association, puisque les statuts, on les a déposés, je crois, en 1958 et qu'on a ouvert en 62. Donc, ça veut dire que ça fait un bon moment. Alors, c'est une association Maison des Jeunes et de la Culture qui est un type d'association particulier qui est normé. C'est quelque chose de particulier avec des systèmes de cogestion avec les pouvoirs publics normalement, et qui pratique tout ce qui est peu, dont la finalité est de former du citoyen. Les MJC sont là pour que les gens se retrouvent dans la société, trouvent leur place, et ceci par tous les moyens possibles et imaginables. Que ça va de la musique, ça va au permis de conduire, ça va au parapente, ça va aux rencontres, aux réunions, à la musique, etc. Et on en invente, il y en a qui disparaissent, etc. Alors c'est vrai que sur Évreux, notre place un peu bizarre fait qu'il y a plein de choses qui ont été récupérées, on reviendra là-dessus, on a créé des trucs et qui sont partis ailleurs depuis
C'est avec regret ou c'est une bonne finalité?
C'est une bonne question, mais je suis pas capable de répondre totalement, c'est plus compliqué que ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut toujours réinventer. Mais enfin, on fait confiance à tous les gens qui sont là. Alors, on est une association qui a un peu plus de 1000 adhérents, avec un directeur, ce qui est un peu original sur Évreux, puisqu'il y a peu d'associations avec des directeurs associatifs. Et nous travaillons également, puisque moi j'ai une double casquette ici, qui est aussi président de la Maison de l'Enfant et des Découvertes, qui est une autre MJC sur les activités scientifiques et techniques. Donc c'est cet ensemble-là qui travaille ensemble, même avec des activités différentes.
Nous reviendrons sur cette notion de projet parce que vous avez dit notamment aider les citoyens à trouver leur place. Là, si on n'est pas dans une grande idée et si on n'est pas dans des valeurs, je m'y connais plus. Là, c'est pas possible. Je vais inviter. Il y avait quelques instants, Odile était juste là. Elle est partie, c'est ça? Ah, elle est partie au bar, Odile. Odile, on va vous inviter à revenir avec nous et à vous installer. Alors, Odile, ma question va être un petit peu particulière et elle trouvera tout son sens, j'imagine. On verra quel type de réponse vous apportez. Mais bonjour, Odile. Et pouvez-vous nous parler de quelle structure vous représentez ou de quelle structure vous allez alimenter la discussion? Elle n'est pas anodine, cette question.
Elle n'est pas anodine du tout. Et je pense que c'est difficile de dire une association. Je milite, parce que je crois beaucoup à ce mot-là, dans trois associations.
Et alors, on va les citer, hein,
alors
très clairement.
C'est l'ABRI, donc une association où je participe essentiellement à la ressourcerie, donc un effort d'insertion, donc, et aussi d'éviter le gaspillage. Je participe au CIDF, je reviens justement du conseil d'administration du CIDF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et l'association AL2E, donc Amicale Laïque d'Évreux-Est, centre social sur Clozoduc et Nétreville. Voilà, c'est important. Je crois que les trois, je les trouve bien et avec une belle cohérence, finalement.
Alors vous êtes en plein dans le thème, parce que le thème c'était justement l'engagement associatif. Alors tout le monde est dans le thème, hein, qu'on se le dise, mais là voilà, je me permettrai sûrement de vous solliciter un peu plus directement sur ce qu'on entend par engagement, et vous le soulignez juste à l'instant, il est cohérent parce que il est peut-être même complémentaire dans votre parcours personnel, non j'imagine.
Tout à fait. Finalement, le militantisme et l'engagement associatif a été absolument clé, parce que c'est grâce à mon engagement militant et associatif que j'ai pu obtenir mon emploi. Donc c'est mon bénévolat qui a été reconnu comme avec une valeur professionnelle. Et donc maintenant que je suis à la retraite, je renvoie un peu l'ascenseur.
Très bien, on aura l'occasion de vous ressolliciter, bien entendu, Odile. Tout d'abord, j'aurais bien aimé aborder cette question. Voilà, aujourd'hui, le thème est l'engagement associatif. On l'évoquait à travers très rapidement vos missions, mais finalement, dans les structures que vous représentez aujourd'hui, dont il existe un collectif derrière, hein, c'est-à-dire qu'on a entendu voilà, Philippe, Olivier, Franck, Jacques, Françoise, mais derrière, il y a tout un collectif, hein, bien entendu, ce ne sont pas des voix uniques des structures. C'est globalement, en tout cas, je vois, ça y est, Cécile, vous commencez à vouloir empêcher de tourner en rond, et c'est très bien, surtout ne vous empêchez pas de nous empêcher de tourner en rond. Je voulais savoir, derrière, il y a un projet quand même qui est assez clairement défini par les structures. Comment se met en place un projet d'une association? Est-il légitime? Et est-il légitime d'ailleurs que des citoyens ordinaires se constituent pour avoir un projet pour les autres, enfin, voilà, ou un projet collectif en tout cas, même s'il n'est pas pour tout le monde. Ma question est assez fourre-tout, je vois que tout le monde réfléchit dans son coin. Dès que le premier a envie de prendre le micro, qui s'en empare, bien entendu, soit dans les personnes que nous avons déjà entendues, soit dans les autres, hein, bien entendu, tout le monde peut s'emparer du micro. Ça veut dire quoi au bout d'un moment de se retrouver, créer un collectif ou faire partie d'un collectif pour mener une idée, un projet, des valeurs, parce qu'on est bien dans le champ des valeurs et des projets quand même, mine de rien. On n'est pas juste dans de l'activité pour de l'activité. Je ne sais pas s'il n'y a pas une vraie question avec un point d'interrogation, mais vous comprenez, j'imagine, l'idée. Franck de l'atelier.
Ouais, alors ça va être un peu chiant, mais le...
C'est un truc qui vous tient, je crois. Vous souhaitez
en fait,
être chiant
en fait,
dans la
le
vie.
Truc, le truc, c'est que je crois, mais ce n'est pas nécessairement systématique, mais c'est... C'est la première infrastructure ou structure qui permet de pouvoir faire des choses légalement. Premier point.
C'est-à-dire que le système associatif, voilà, c'est la première.
Si, avec zéro moyen au départ, si on a envie de s'identifier et de faire des choses de manière légale, c'est le seul statut. C'est pas le terme. Je sais pas
si
comment.
Si c'est un statut juridique, c'est un statut. Hein, le statut associatif.
Donc voilà, c'est le seul statut en France à l'heure actuelle depuis quelques années qui nous permet ça. Ça, c'est le premier paramètre, je pense. Après, ça n'empêche pas les vrais désirs de chacun. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est le premier truc.
C'est même un outil des désirs de chacun, j'imagine. C'est un outil, effectivement, assez abordable. On rappelle, une association, c'est au moins deux personnes qui se réunissent, qui constituent une assemblée générale, un CA, un bureau, mais ça peut être deux personnes, hein, un trésorier, un président. Et puis, à partir de là, il y a un statut légal pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, créer de l'action et puis, et
je
puis
crois
faire
qu'il
valoir...
Il a été question, à un moment donné, de remettre en cause
ce statut.
Ouais. Non. Jamais.
Si, oui. Si. Voilà. Oui. Voilà. Allez, emparez-vous de la parole, Odile.
Si,
ensuite,
si, il y a plein de choses. Il y a plein de débats actuellement sur est-ce que c'est encore une bonne structure. Il y a un rapport de KPMG tout récent qui dit que c'est une structure complètement dépassée. Il faut arrêter ça. Il faut aller vers des sociétés à but peut-être non lucratif. Mais vraiment, il y a aujourd'hui sur la table cette idée qu'il faut tuer le monde associatif.
Très bien. Françoise, vous vouliez intervenir. Donc François accueille Ville Française.
Oui. Bon, nous, notre objectif, c'est essentiellement dans l'accueil. Et nous sommes engagés pour être au service de ceux qui arrivent. Nous sommes ouverts à tout le monde, pas seulement qu'aux nouveaux. Mais notre engagement est essentiellement dans l'accueil et pour permettre aux gens de s'intégrer sur Évreux, dans la région, et de se sentir bien dans leur nouvel environnement. Ça, c'est notre engagement.
Ce que j'entendais à travers notamment l'intervention d'Odile et de Franck, c'est qu'au bout d'un moment, ce sont des citoyens ordinaires qui décident d'agir. Enfin, ça veut dire quelque chose. Au bout d'un moment, j'imagine un engagement associatif, c'est au bout d'un moment donner du temps pour mener à bien un projet. Je sais pas, ça évoque quelque chose pour vous. Enfin, on pourrait trouver ça étonnant quand on renvoie derrière l'image de la société. Voilà, c'est quand même particulier, ça. Catherine, vous souhaitiez prendre la parole.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que ce que fait notre ami, ça y est, j'ai perdu son nom.
Franck.
Franck, c'est pas toujours chiant. Même pour quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la musique, parce qu'il m'a fait découvrir des choses qui étaient assez formidables. En tout cas, pour une néophyte comme moi, je ne me suis pas toujours ennuyée. Je ne vais pas très souvent à ses concerts, parce que quelquefois, comme il le dit, c'est très pointu. Mais quand j'y suis allée, c'est intéressant. Ça, je pense aussi que ça peut être une des forces des associations et par le fait aussi de petites structures, de pouvoir accéder à des choses où on n'irait pas forcément parce que c'est une grande structure ou c'est une grande salle. Et ça, je pense que c'est un des avantages qu'on peut trouver dans les associations. Maintenant, pour revenir à ce que disait Odile sur la réflexion sur les associations et sur le monde associatif, je pense que s'il y a des idées aussi de revoir ce statut des associations, c'est parce qu'il y a des associations qui sont devenues énormes, on peut dire, et quelquefois, on peut se demander pourquoi ce sont des associations et ce ne sont pas d'autres structures parce qu'elles réunissent, par exemple, dans le monde de la santé, où on a des dizaines de salariés, voire des centaines de salariés, et où ce statut n'est pas forcément toujours très bon et peut amener à un certain nombre de, on va dire, de dérapages.
Philippe, vous souhaitiez intervenir ?
Sur les valeurs, les MJC se sont voulus un quasi-service public. C'est-à-dire que la donnée n'est pas une donnée privée. Et on ne veut pas s'adresser uniquement à des gens qui sont à l'intérieur. Il y a donc bien là toute une ouverture. La difficulté aujourd'hui, c'est que cette notion-là, et pourquoi ça, et c'est que la gestion doit être faite par les adhérents. C'est-à-dire la notion même d'adhérer est fondamentale. Et d'autre part, il y a les gens qui se servent, qui s'appellent les usagers. C'est un vieux vocabulaire, mais qui est réel. Et l'autre point est important, puisque les adhérents, eux, doivent gérer cette association. Et la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, il faut le dire, c'est que une association comme la nôtre, mais comme bien d'autres, gérer une association aujourd'hui, on entre dans des normes extrêmement difficiles et qui demandent des compétences. Or, où est la promotion sociale si on n'amène pas les gens pour devenir de meilleurs citoyens ou des élus après ou tout ce qu'on veut, n'ont pas les moyens d'essayer leur gestion dans une association. Et je crois que c'est ça bien le projet.
Il y a un point très important que vous soulevez là, c'est que c'est une gestion de citoyens. Ça veut dire que ce sont des gens ordinaires, sans prérequis. Enfin, pour entrer dans une association, il n'y a aucun... Enfin, pour être membre d'une association et membre actif, et membre du conseil d'administration ou même au bureau, voire même président, il n'y a pas de prérequis. C'est pas sur un CV ou des compétences. C'est bien sur un engagement. C'est une notion hyper importante. Cécile.
Moi, je voudrais savoir ce que c'est un citoyen ordinaire. Parce qu'il me semble que tous les citoyens sont égaux, mais alors c'est quoi la définition d'un citoyen ordinaire ?
Ah, vous me questionnez, alors, c'est pour moi alors. Bon, alors un citoyen ordinaire dans mon vocabulaire, pardon, vous avez bien raison de me questionner là-dessus. Pour moi, c'est un citoyen qui n'a aucune particularité ou compétence spécifique, ou aucun mandat, aucune particularité. C'est un citoyen, ce qu'on appellerait
ordinaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait aucun citoyen qui n'ait aucune particularité ni aucune compétence. Je pense que tous les citoyens ont des compétences, c'est bien pour ça que c'est important qu'ils puissent se réunir et donner leurs idées et proposer à des gens de participer à des projets, pas seulement s'ils sont élus. Il n'y a pas, justement, je pense, une frontière entre des élus à qui on donne la responsabilité d'agir pour les autres et des gens qui subissent cette action, qui vont uniquement voter une fois de temps en temps, ou pas d'ailleurs, et qui après se disent « bon, moi je ne suis pas responsable, je suis habitant, citoyen, c'est qu'on est tous compétents et on est tous capables de réfléchir, d'avoir des idées et de proposer aux autres. » Parce que l'association, c'est aussi, c'est pas imposé. C'est-à-dire qu'on peut monter une association si vraiment c'est chiant. Et bien, personne ne vient. Donc, l'association, elle ne vit pas longtemps. Donc, ce principe-là, c'est moi, j'ai une idée. Alors, c'est une bonne idée pour moi, toute seule. Je me dis, ça peut intéresser d'autres gens. Je monte une association. Et si vraiment d'autres considèrent que c'est intéressant, ils viennent. si c'est pas intéressant, ils viennent pas et ça s'arrête. Donc le citoyen ordinaire, c'est juste opposé à un élu, en fait, à quelqu'un qui a un mandat et qui a un pouvoir supplémentaire donné par les citoyens sur les autres citoyens. C'est ça la définition.
C'était à peu près ça l'idée, mais merci de la préciser, Cécile. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette gestion, justement, citoyenne, quelle importance elle a pour vous ? Parce qu'on pourrait considérer que les services publics remplissent les missions dont les citoyens auraient besoin et que ça suffirait amplement, que la programmation que propose l'atelier, on pourrait attendre qu'elle soit proposée de manière institutionnelle, que l'accueil des personnes sur Évreux soit organisé de manière institutionnelle, que l'organisation des loisirs éducatifs et l'accès à la culture soit organisé par l'institution. C'est dans les missions d'État tout de même. Pour quelle résonance ça a pour vous, au bout d'un moment, que ce soit des citoyens qui le mettent en place, quoi ? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous ? Enfin, moi, ça en a pour moi, hein, personnellement. Vous le sentiez pas du tout ? Bon, bah écoutez, je me sens obligé de le dire. Non, mais je sentais bien qu'au bout d'un moment, ça, j'étais en train de m'engager. Sophie ?
Oui, bah, moi je viens de Vénus, donc.
C'est beau dit comme ça, c'est vraiment beau dit comme ça, c'est super.
Je crois que dans le cadre de notre association à nous, c'est qu'il y avait un manque au niveau de ce qu'on aimait écouter en musique et un public potentiel. Et donc je pense que ça a été fait aussi pour ça, pour écouter de la bonne musique que nous on aime bien et inviter les gens à partager ces moments-là. Et il y a tellement de gens différents qui aiment plein de choses différentes que c'est pour ça que c'est important de garder ces milieux associatifs de n'importe où ils viennent ou pour n'importe quelle raison ils se montent. C'est ça aussi qui est important.
C'est aussi peut-être aussi cette capacité à pouvoir agir, enfin, c'est qui est ne pas être uniquement consommateur de ce qu'on va nous proposer, mais d'être en pouvoir d'agir. Pardon, peut-être je déborde, mais vous l'aurez bien compris, les auditeurs l'ont compris depuis longtemps, Radio Principe Actif est une radio associative et également, on est très concerné par cette question associative, bien entendu. Odile.
Puis je crois qu'il y a un côté gratuit aussi, hein, donc on n'est pas à chercher à être réélu, à porter, je ne sais pas trop quel projet politique ou autre. On est là pour faire des choses concrètes, pour faire que les gens se sentent mieux, qu'ils aient plus envie de se mobiliser aussi, qu'ils soient plus actifs. Donc, et pas forcément en étant obligé de voter pour quelqu'un demain.
Françoise.
Oui, je reprends un petit peu ce qu'Odile disait, à savoir que dans notre association, nous avons une charte. Lorsque les nouveaux arrivent, nous les accueillons, nous sommes un peu au service, hein, à leur service, mais on leur demande en somme de s'impliquer au bout de 2-3 ans dans l'association. S'ils ont des compétences, s'ils veulent se devenir accueillants eux-mêmes, ils sont les bienvenus. Hein, ça fait partie un petit peu de notre charte. C'est-à-dire, on reçoit, mais à un certain moment, il faut savoir donner.
Je me permets, du coup, c'est une implication aussi très, très directe. Je voulais revenir sur un des propos qu'a tenu Odile. Alors, pas forcément pour demander un retour d'Odile, hein, mais globalement, elle était en train de nous dire en fait, dans les associations, on n'est pas là pour porter un projet politique. Et malgré tout, j'ai la sensation quand même, et là, pour le coup, je pense que sans me retourner vers Philippe très directement, vous voyez où je veux en venir, Odile. Hein. L'impression que quand même ces associations sont hyper politiques,
oui, mais
dans un peut-être pas partisane, peut-être
voilà,
pas politicienne,
c'est en ce
mais sont très politiques.
C'est en ce sens-là. Et c'est pour ça que, par exemple, à L2E, on a mis en avant le terme laïque. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde, c'est pour tous. Donc, c'est le côté partisan doit être un peu... on a des valeurs, on se bat pour, hein, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de porter, puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de porter, mais pas de manière partisane.
Franck,
si je peux me permettre, tout acte est politique.
Ah oui, tout acte dans la cité, tout acte citoyen, il porte pas forcément sur une couleur politique ou une esthétique politique, mais tout acte est politique. Tout acte d'un citoyen qui s'inscrit et qui fait quelque chose est politique.
Je crois que là, on a suscité la réaction de Philippe.
Oui, je crois que tu as raison. La manière dont la politique est vue, c'est la vie de la cité, et c'est à la fois avoir des idées, les mettre en avant, donc pour ça qu'on se rassemble, mais en même temps confronter les idées avec le pouvoir lui-même qui est élu. Mais nous avons, et il y a un aspect fondamental sur lequel je voudrais insister, c'est que la vie associative met en place un acteur majeur. Et qu'à l'heure actuelle, on a tendance à nous transformer en opérateurs et que les ordres viennent d'ailleurs. Je pense que c'est par là que la vie associative est en train de se poser des problèmes, ou qu'on va nous poser des problèmes, parce qu'on veut nous donner des ordres, alors que je considère qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Et ça, il va falloir voir ce que ça donne.
Ça pose un deuxième problème, qui est dans le cadre d'une association. Il y a des associations qui bénéficient de fonds publics, d'argent public, sous couvert d'un projet qui doit être décidé par les collectivités qui financent cette association. Alors après, il y a des associations qui fonctionnent sans argent public, et il y a des degrés très différents. Et donc, dans quelle mesure et à quel moment, aujourd'hui, en 2017, pour une petite, une moyenne, une grande association, quel compte on a à rendre, comment on défend des projets en toute liberté qui doivent être financés. On a des comptes à rendre très simples, hein, bien sûr, comptables, ce qui est normal, c'est de l'argent public. Après, pour les obtenir, ça nécessite, et je suis bien placé pour le savoir à mon petit niveau, des compromis. Sinon, on n'obtient pas les choses. Enfin, on n'obtient pas l'argent pour pouvoir faire ces choses. Voilà. Donc, au-delà de toute la mission, je pense, intrinsèquement, de chaque association, petite, moyenne, grande, il y a des enjeux qui, aujourd'hui, deviennent de plus compliqués qu'il y a quelques années, je crois. Hein.
Ça m'amène à une réflexion. Là, vous évoquiez juste à l'instant fonctionner avec de l'argent public. Justement, ces associations, beaucoup fonctionnent avec une partie dans leur budget d'argent public. Certaines beaucoup, d'autres beaucoup moins. Peu importe, c'est pas ça la question. L'argent public, est-ce que au bout d'un moment, c'est aussi en contrepartie d'une mission de service public? Quel est le lien entre l'institution qui a l'argent, d'ailleurs, que nous lui avons confié à travers nos contributions collectives, hein, bien entendu, enfin, cet argent n'est pas apparu, hein. C'est du coup qu'ils sont en gestion, qu'ils la redistribuent parfois sous forme de subventions à des associations. Quel est le lien entre cette mission peut-être de service public qui est confiée à une asso, ou comment l'asso vient poser ce lien entre argent public et puis association? C'était pas très clair, mais je crois que vous éclaircirez tout ça. Raphaël, alors vous, c'est particulier, vous êtes directeur d'une association, et c'est la MJC en l'occurrence.
Ouais,
De deux associations, Sophie, Cécile, décidément, je vous en veux.
MJC, ouais. Alors j'ai un statut un peu particulier, parce que je fais partie quand même des conseils d'administration de ces deux associations-là, puisque je ne suis pas salarié des deux associations, mais bien de la fédération des MJC. Alors pour en revenir à la question, effectivement, on bénéficie de fonds publics, de subventions, mais c'est basé sur notre projet. C'est nous qui avons un projet, qui le proposons aux collectivités et à l'État, et eux qui le financent. Donc c'est important comme notion. C'est pas, on rentre pas dans une commande, mais bien c'est bien les pouvoirs publics qui nous donnent de l'argent pour mettre en œuvre notre projet. C'est en train de changer avec les appels d'offres, les appels à projets, justement, puisque là, pour le coup, c'est des commandes de collectivités, des commandes de l'État dans lesquelles on doit se tordre ou tordre notre projet pour rentrer dedans. Donc déjà, c'est beaucoup plus pervers. On en arrive même à des appels à concurrence. Donc on est en train de nous faire rentrer dans des systèmes alors que l'association n'est pas faite pour ça, où on se retrouve face à des quasi-entreprises, des assos qui sont quasiment des entreprises. Donc on est en train, effectivement, moi c'est quelque chose qui me gêne considérablement, on est en train de changer ce pourquoi est fait une association, en fait, de la mettre dans un système elle n'a pas été créée pour ça. Elle n'a pas été créée pour répondre à des appels d'offres ou des appels à concurrence. Donc ça, c'est très gênant. C'est extrêmement gênant. Donc il y a une tendance lourde de ce côté-là. Et on ne sait pas trop bien comment résister à ça. On résiste, mais difficilement.
François, non. Si oui, vous vouliez oui. Agir.
Alors, en ce qui concerne l'accueil des villes françaises, nous avons un local qui est prêté par la municipalité, mais nous vivons pratiquement avec nos adhésions. Nous avons pratiquement pas de... Bon, une toute petite subvention, vraiment minime, mais nous sommes autonomes. Nous nous débrouillons quasiment tout seuls. Bon, voilà.
Ce qui, du coup, ne rentre pas dans la démarche forcément d'appel à projet ou autre. Odile, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces appels à projet. Et ce qui rend de plus en plus important pour l'association d'avoir ses propres valeurs et d'avoir son propre projet. Parce qu'on peut décider ou pas de répondre à un appel d'offres, à un appel à projet. Alors, avec le risque que, à force de dire non, je réponds pas, d'assécher complètement les ressources et de se retrouver à mettre la clé sous la porte. Bon, c'est pour ça qu'il faut aussi les adhérents, leur capacité à s'engager, à faire pression, à faire poids. C'est important dans une association.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à travers ces appels à projets, ces appels d'offres ou autres, on arrive à du coup être dans l'obligation quasi de négocier avec son propre projet. Je me permets d'aller peut-être un peu plus loin que ce que vous disiez, mais on arrive à cette question-là de négocier avec son propre projet.
Ça peut aller jusque-là. Si finalement, c'est le devenir de l'association qui est en jeu, ça peut aller jusque-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'une association, elle ait ses propres ressources à travers ses adhérents, à travers ses activités. Sinon, c'est être pieds et poings liés par rapport à des donneurs d'ordre.
Je vous propose d'alléger un petit... Parce que là, ça devient terrible, parce que vous nous disiez, Odile. Je vous propose que nous fassions une très courte pause musicale, histoire que nous revenions juste derrière, justement, sur ces questions de gouvernance associative. Sophie, vous vouliez prendre la parole ? Rapprochez-vous. Olivier, vous vouliez... prenez la parole, Olivier. Voilà, Olivier, pardon.
Oui. Non, c'était pour dire que nous, justement, on essaie de rester complètement indépendants. Ce qui permet, on va dire, d'être libre, entre guillemets, quoi, de pas avoir, non. Si, c'est ça. Enfin, pour nous. Mais on est aussi, on a une structure très légère, on se greffe un peu sur d'autres gens, sur d'autres structures, et ça nous permet aussi de pas trop s'engager et de pas être dépendant d'autres choses. Quoi. Ce qui nous fait un peu peur, d'ailleurs.
Cette dépendance vous fait peur ? Cette indépendance, c'est ce que vous recherchez, mais est-elle un frein, au bout d'un moment, cette indépendance au développement ou à la capacité d'aller plus loin ?
Pour l'instant, non. Puis on n'a pas une idée de développement non plus.
Je me permets, là, pour le coup, Philippe, pour présenter quand même une grosse structure de... Oui. Bah, si, la MJC, c'est une grosse structure avec... Je ne pourrais pas décrire combien de secteurs d'activité, mais est-ce que l'indépendance, ce serait un truc financier, j'entends, serait quelque chose d'imaginable pour une structure type MJC ? Je me permets d'aller mettre les deux éléments côte à côte un petit peu, même si l'action n'a rien à voir. Hein. Est-ce qu'une MJC pourrait considérer être indépendante financièrement ?
Non.
Et pourquoi, du
coup ? Non, parce qu'on est public. Et que, dès lors, il est nécessaire qu'il y ait des fonds publics. Et le vrai problème, c'est de savoir pourquoi, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur des associations, alors qu'elles ont des statuts, et on leur dit qu'ils veulent venir et cogérer avec nous. Ils disent « Ah non, débrouillez-vous tout seul ». Eh bien non ! Il faut, c'est là où il y a, c'est ce rapport avec le politique tel qu'il est organisé, il n'est pas comme ça. Quand les gens votent pour l'État, pour etc. Ils votent aussi pour qu'il y ait une politique associative. On est là aussi pour ça. Il faut que les impôts servent aussi à faire que nos associations existent parce qu'elles ont un rôle fondamental dans la société. Si c'est pas ça, alors là, on est sur une autre société et là, c'est un autre problème qui est posé.
Vous sous-entendez qu'en fait, le système associatif viendrait comme moyen d'action de certaines politiques régionales, départementales, d'État et compagnie.
C'est pas ça le problème.
Enfin, non, 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 non,
bah, c'est pas un moyen. On donne de quoi comprendre ce qui se passe, de quoi permettre aux élus d'exister. C'est fondamental. Et à partir de ça, l'association sert à former les gens, à leur faire comprendre, à les voir, etc. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur des associations, surtout en jeunesse, éducation populaire ou des trucs comme ça où on est, qui ont vraiment la volonté là de former des citoyens. Donc je pense qu'il y a dans la tête des gens des systèmes qui aujourd'hui sont extrêmement dangereux.
Ça invite une réflexion, ou sinon on va rester là-dessus le temps d'une pause musicale, et vous inquiétez pas, nous reprendrons les échanges juste après. Monsieur Pignon, une pause musicale, vous avez ça à nous proposer, bien entendu. Merci à vous.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Macochina, Macochina. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang.
Voilà, il le disait, Macochina des Berruriers Noirs. Bah oui, ça fait plaisir. Hein. Je vais réinviter. Tout le monde est parti boire un coup au comptoir. Laura, qui n'était pas au micro tout à l'heure, a complètement drainé l'intégralité de l'assistance. Comment elle va, Laura, d'ailleurs? On a un micro. Laura, comment ça va?
Ça va, merci, j'y sais.
Bah, voilà, très occupée au bar, c'est ça?
Oui, exactement.
C'est toi qui nous récupère toutes les personnes qui sont venues pour échanger.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça que tu n'arrives pas jusqu'à nous.
Bah, oui.
Et bah bravo, bah bravo. On t'attend pour la conclusion de cette émission tout à l'heure. Merci d'ailleurs à Laura hein, qui a organisé en fait tout cet échange. Je vous rappelle qu'on est à la MJC Bel et Bas en direct, en live et en public pour échanger, discuter, partager des idées, des tout un tas de choses d'ailleurs, ce qu'on a envie de partager ensemble autour de la question de l'engagement associatif. Je voulais revenir justement sur cette question d'engagement associatif et plutôt sur la partie gouvernance, en fait, ce qu'on va appeler les conseils d'administration, les bureaux, les personnes qui, en fait, font fonctionner ces associations au quotidien. On a évoqué cette notion de valeur, d'engagement qu'on pourrait appeler politique. Alors, on l'a défini tout à l'heure pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. On a défini ce qu'on appelait un engagement politique, en fait, une action sur la cité, tout simplement, bien loin des questions partisanes. Je voulais, moi, revenir un petit peu sur eh bien, à quoi ressemble en fait, cette gouvernance d'une association, comment ça se passe en fait, j'ai envie de dire, dans les réunions qui sont bien souvent le soir, d'ailleurs, les conseils d'administration, les bureaux, bah oui, ce sont des gens qui ont des activités professionnelles bien souvent ou qui ont des activités ordinaires. Je vais arrêter avec ce mot-là, mais en tout cas, des activités tout simplement de leur vie. Je voulais savoir à quoi ressemblait une composition d'un conseil d'administration. Est-ce que ce sont des gens particuliers qui participent à ces conseils d'administration? À quoi ressemble un profil de conseil d'administration dans vos structures? Comme tout le monde est au bar, Philippe, je vais peut-être commencer. Catherine, vous souhaitiez intervenir.
Oui, alors à la MJC, c'est des profils tout à fait différents qui se retrouvent avec des compétences différentes. C'est un moment important pour l'association et aussi pour les personnes qui font partie de ce conseil, puisque c'est là où sera vraiment monté le projet de l'association, où sont vus aussi les comptes. Donc, quand tout va bien, c'est parfait. Quand tout va moins bien dans une association, c'est plus difficile parce qu'il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas toujours très faciles quand il faut penser qu'on ne remplacera pas quelqu'un ou qu'il va falloir réduire des heures de travail. Ce n'est jamais avec gaieté de cœur puisque ça veut dire que l'association fonctionnera pas autant qu'elle pourrait le faire si elle avait des moyens de le faire. Mais bon, là, il y a, je sais pas, il y a des personnes qui travaillent à la ville. Moi, je travaille dans un organisme de sécurité sociale. Il y a une personne qui est profession libérale. Je suis en train de chercher, voilà, c'est des retraités. Donc, oui, un retraité ou des retraités. Donc, c'est la représentation de la.
Ben de la société de la manière
société
générale.
Voilà. De matière générale.
Comment ça, parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire que des personnes qui finalement œuvrent dans un conseil d'administration ou dans un bureau, qui est un autre organe du fonctionnement associatif, en fait, ont à gérer quand même des questions hyper sérieuses. L'emploi, des questions financières, des questions de projet, toutes ces questions-là. Finalement, comment on s'y prépare à gérer ces questions-là quand on est un citoyen ordinaire et qu'on vient prendre un engagement. Non, mais qu'on vient prendre un engagement. On s'y prépare, on s'y prépare pas. Comment ça se passe finalement? Parce que ce sont des questions hyper sérieuses finalement qui sont traitées. On n'est pas juste en train de choisir la couleur du mur ou je ne sais quoi. Non. Enfin, il y a une vraie incidence en fait sur ces choix-là.
Bah, ça dépend déjà de la taille de l'association parce que j'allais dire à la MJC où je crois il y a 10, 12. Des emplois, non, plus que ça. Il y en a plus que ça.
C'est ça. On...
30 emplois,
mais certains partiels, mais... c'est ça.
Voilà. Mais combien 15 équivalents temps plein, c'est une...
C'est une responsabilité,
c'est
ça.
C'est une responsabilité, c'est une petite société. Maintenant, il y a des associations qui travaillent sous un autre mode. Je pense que...
Vénus in Fuzz, ils n'ont pas ces problèmes de salariés, a priori.
Non, pas du tout. Non. Bah, comme je disais, on est très, très léger, nous. Donc, c'est que des gens passionnés, que des...
Mais du coup, quand même, dans la gestion... Alors, j'imagine qu'il ne doit pas se passer la même chose dans le CA de Vénus in Fuzz que dans le CA de la MJC. Philippe Bordier, vous souhaitiez intervenir là, sur ces questions de gestion, puis de ces questions, à un petit moment. Oui. Est-ce qu'il y a voilà, un bénévole qui rentre? Est-ce qu'il est préparé, finalement, à gérer toutes ces questions-là? Et comment il s'y prépare?
D'abord, il faut que nous, on fasse un effort pour le préparer, mais c'est pas aussi évident que ça. Mais ça, un des problèmes qui est posé, c'est-à-dire que il y a de moins en moins le droit à l'erreur. Or, est-ce que l'erreur n'est pas un des systèmes les plus formateurs qui existent ? Or, aujourd'hui, quand on fait une erreur, on risque de tout perdre. Donc, là, il y a quelque chose qui va pas. Parce que on n'aide pas, à partir de ce moment-là, la montée d'un certain nombre de gens, puisqu'on est obligé, dès l'abord, de leur dire « Attention, si on se fiche dedans, on risque tout. » Et ça, je crois que c'est quand même un des gros problèmes que l'on a. L'autre point, c'est effectivement la qualité des décisions qu'il y a à prendre, qui quelquefois engagent pas mal de choses. Alors, quand on est employeur, certes, mais il n'y a pas que ça, parce que on engage aussi la manière dont les gens vont aborder les choses. Et en plus, il faut bien se dire qu'un conseil d'administration, c'est un ensemble de gens qui pensent pas tous la même chose. Il y a des gens qui pensent différemment, qui agissent différemment, qui ont un autre passé, puis qui ont peut-être un autre futur aussi. Et qui donc, à partir de ce moment-là, ils se rencontrent, ils racontent des choses. C'est un moment de la vie et dans lequel on peut aussi avoir des discussions, ne pas être d'accord. Ça apprend aussi le conseil d'administration, et ça c'est fondamental, à se mettre ensemble pour avancer, pour ensemble trouver une solution, même si on n'est pas d'accord. C'est en cela qu'on est un véritable apprentissage de la politique, mais est-ce que la politique a compris ça ?
Cécile ?
C'était sur l'histoire des responsabilités, là, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas techniciens, ni du personnel, ni des payes. Alors effectivement, dans une association comme la MJC, il y a des salariés sur qui on peut s'appuyer pour les aspects techniques. Et puis, il y a quand même aussi justement un ensemble de gens qui sont dans un CA qui ont des compétences différentes. Parce qu'on peut, c'est justement l'avantage du collectif par rapport à l'individuel, où si on est tout seul, on doit tout savoir sur tout. En se renseignant, là, quelqu'un peut apporter des éléments sur... peut-être on a, par exemple, quelqu'un qui peut être huissier, qui a des connaissances juridiques, qui va apporter ça en étant bénévole, enfin, et sur plein d'autres choses. Et puis sur les compétences et le savoir, en fait, les élus de la République... les compétences qu'ils ont, quand on devient ministre de la Santé, on n'est pas forcément au départ ni médecin, ni infirmier, non plus. Voilà, ni quand on est ministre, ni quand on est maire, ni quand on est adjoint, que ce soit aux finances, c'est pareil. On a une vue, on a des valeurs, on a la capacité à partager, à échanger avec les autres, à construire des projets. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être spécialiste dans un domaine. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de nous. Ce n'est pas toujours les meilleurs spécialistes. C'est une petite tendance de nommer des gens spécialistes dans les domaines parce qu'on considère qu'ils vont savoir mieux que les autres. Parfois, ça peut être aussi enfermant. Alors, ça peut amener des erreurs, c'est vrai. Mais tant qu'on arrive à réfléchir sur ces erreurs, à en discuter et puis à avancer... je pense que c'est intéressant.
Oui, c'est par rapport à ce que tu dis, Cécile, c'est vrai qu'on a eu quelques ministres de la Santé qui faisaient partie du Sérail de la Santé, et c'est pas eux forcément qui ont mis les meilleures choses en place. Donc, on ne va pas revenir sur des vieilles histoires de vaccins, etc., qui ont été... voilà. On revient quand même. Mais ce que je pense aussi qui est important dans un CA, bon, il y a tout ce qui est technique, on va dire, mais c'est aussi s'engager sur la qualité de ce qui va être proposé dans l'association. Parce que, bien sûr, il y a tout le fonctionnement, mais après, quand il y a des activités qui sont proposées, il faut qu'elles aient une certaine qualité. Et ça fait partie aussi de la responsabilité, je pense, du conseil d'administration, de bien s'assurer du fait que le projet, qu'il soit artistique, sportif, de loisirs, de voyage, de ce qu'on voudra, ait une qualité qui soit forte et qui permette à tout le monde d'avancer.
Mais alors moi, je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire, si je peux. Parce qu'en fait, il y a des formes très différentes en étant la MJC et L2E sont associés sur certains projets. Donc moi, je représente la MJC au conseil d'administration de la L2E. Et il y a deux fonctionnements, ce sont deux associations assez importantes. Il y a deux fonctionnements de bénévoles complètement différents, d'administrateurs complètement différents. Un administrateur à la MJC...
Il y a des salariés, il y a un directeur qui mène les activités, qui fait le recrutement, qui gère le personnel, alors que à L2E, mais je ne vais pas le dire à la base de Odile qui est à L2E, c'est très très différent. La mission des administrateurs et l'engagement dans l'association n'a rien à voir. Mais je vais la laisser expliquer.
En quelques mots, peut-être, vous pouvez nous expliquer, Odile.
Oui, c'est vrai que sur la partie de gestion des activités, l'engagement des bénévoles est beaucoup plus important. Et je crois que c'est intéressant parce que, en fait, pour arriver à un conseil d'administration, il me semble qu'il y a un cheminement. Donc, on peut commencer dans une activité, s'occuper, je ne sais pas, de faire en sorte que la broderie marche bien, que la peinture marche bien, donc prendre un peu plus de responsabilité, que les horaires soient bien, et puis à partir de là, d'aller discuter avec le conseil d'administration et peut-être d'y venir au conseil d'administration. Et donc, je crois qu'il y a ce cheminement est important.
Ce que vous évoquiez, c'est cette notion de parcours du bénévole qui amène à prendre des engagements au bout d'un moment, ce qui répond en partie aussi à cette notion de formation. Comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions pour une association, pour un collectif sans compétences? Ben non, ce sont des compétences bénévoles qu'on a acquis tout au long de son parcours et petit à petit. Je voulais profiter d'avoir Raphaël, directeur de la MJC, du coup professionnel de la profession, comme on pourrait dire. Non, mais voilà pourquoi je lance comme ça. C'est parce qu'en fait, vos employeurs, les orientations données par les politiques de l'association, finalement, ce sont des personnes qui n'ont pas cette compétence technique. Et il y a un aller-retour entre votre rôle de professionnel, donc avec les compétences techniques d'un directeur de structure, et finalement des orientations qu'on peut qualifier de politiques de personnes qui finalement n'ont pas ce niveau de technicité. Enfin, comment ça s'organise en fait, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est compliqué finalement pour un directeur de répondre à des commandes de gens qui connaissent pas le métier.
Alors je vais pas pouvoir répondre parce que ce n'est pas mes employeurs. Mon employeur, c'est la fédération. Et oui, c'était le piège. Ouais. Moi, je participe au conseil d'administration en tant que membre du conseil d'administration. Voilà. Donc, c'est un statut tout à fait particulier, tout à fait unique et, à mon avis, très intéressant. Et je suis très étonné qu'il n'ait pas été utilisé ailleurs. Parce que c'est une place qui permet de voter, de donner son avis, où on n'a pas la pression d'être sous la coupe des employeurs, donc de ne pas pouvoir s'exprimer aussi bien comme je peux le faire aujourd'hui au sein du conseil d'administration. Donc, je peux difficilement répondre à ta question.
C'est pas grave, vous allez voir, je la replie là. Je dois sortir un jour où je croiserai un employé d'une structure associative.
En tout cas, à mon niveau, ce qui est évident, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je m'efforce dans la présentation des projets ou de ce qu'on discute en conseil d'administration d'amener. Le niveau de discussion de telle manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de technicité, que chacun puisse, avec son parcours, ce qu'il est, donner son avis sans comprendre des choses hyper techniques de droit du travail, de financement, de je ne sais quoi, d'agrément, de permis de conduire, enfin je ne sais pas, de notions culturelles compliquées, des choses afin que chaque membre du conseil d'administration puisse se donner son avis. Donc ça c'est un de mes boulots, quoi, j'ai envie de dire.
C'est comme ça que vous, dans les conseils d'administration, vous ressentez aussi cette relation entre le technicien qui lui maîtrise une technique, qui a tous les éléments, c'est son métier hein, en fait, tout simplement, et puis finalement les bénévoles qui ne sont pas du métier, mais qui vont quand même donner une orientation à l'ensemble de la machine. Je sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Alors Philippe.
Parce que la présence du conseil d'administration ne sont jamais que les gens qui ont été élus par l'Assemblée Générale. Autrement dit, ce sont bien des gens qui sont là parce que soit ils pratiquent, soit ils discutent ou travaillent avec des gens qui, eux, pratiquent des choses dont les enfants sont là. C'est le principe même de la vie associative. Et c'est pour ça qu'il faut être à la fois à l'écoute des professionnels, mais aussi à l'écoute de l'ensemble des gens de la maison, et que
C'est ça un peu le plus dur, c'est de faire que l'ensemble des gens qui pratiquent dans la maison s'expriment. On a un peu perdu l'habitude de s'exprimer comme ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait absolument retrouver. C'est tout à fait important.
Les MJC, notamment, étaient un lieu particulièrement actif sur cette notion d'expression. Enfin, oui, ça s'est appuyé sur ces questions d'éducation politique, dans tous les mouvements d'éducation populaire. Il n'y avait pas que les MJC, hein, mais en tout cas, ça s'est clairement inscrit dans ce mouvement-là, oui, hein, de parole.
C'est vraiment ça, l'éducation populaire globale, hein, si on veut. Elle se situe comme ça. Parce que moi, j'ai quelques activités avec les autres, et ils pensent la même chose, pas tout à fait la même chose, et ils écrivent, ils disent. Donc, je pense qu'il y a là un véritable élan, qu'on ne sent pas partout, mais qui existe vraiment.
Moi, je me pose... Odile, vous souhaitiez prendre la parole ?
On a parlé des conseils d'administration, des bureaux, mais il y a aussi souvent dans les associations des commissions.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Des groupes de travail. C'est-à-dire des endroits où on va pouvoir parler de sujets peut-être plus techniques, plus dans le détail, et que c'est un excellent endroit pour justement commencer à comprendre les choses sans être trop engagé. Donc, pour un peu tester l'engagement de la vie associative. Donc, dans des grosses associations, on parlait tout à l'heure de l'ABRI, c'est une grosse association où justement travailler dans des commissions, c'est l'occasion de rencontrer les professionnels, ceux qui connaissent bien le sujet et qui vont apporter leur technique. Mais nous, les élus ou les adhérents, on va apporter justement notre vision de la politique. Donc là, je reviens sur la fameuse politique. Donc, du projet associatif. Et on va s'enrichir mutuellement, si bien qu'après, on va être prêt à venir dans le conseil d'administration.
Sur cette question de conseil d'administration, d'engagement et de bénévoles, on a bien compris comment, on pourra en parler pendant des heures encore, mais on a bien compris comment le bénévole agissait sur le collectif avec cette notion de projet politique, de porter des valeurs, ça c'est assez clair. Mais finalement, y a-t-il, ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement en introduction, un retour finalement, qu'en tire le bénévole finalement, là tout autour de la table, on a beaucoup de bénévoles qui s'engagent dans l'association. Pourquoi le faites-vous? J'ai envie d'être assez direct, qu'est-ce que vous en retirez? Quel est l'intérêt de participer à une vie associative? Parce qu'on voit bien qu'il y a des responsabilités aussi dans tous ces engagements. Victor?
Je pense que c'est d'abord une envie personnelle et qui n'attend rien en retour. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était ça. C'est-à-dire que j'avais envie pour moi, pour apprendre, pour partager avec les autres. Et
pour apprendre, c'est déjà un retour. Hein. Enfin, je me permets.
Oui,
hein.
Oui.
C'est déjà récupéré.
Mais ce que je veux dire,
chose.
C'est qu'il n'y avait, pas un... parce que finalement, je vais peut-être rétrograder un peu sur ce qu'on avait dit avant, mais c'est dur d'avoir aussi de constituer un CA, de constituer une équipe qui vous suit. Et je pense que l'investissement doit être... tout à fait volontaire et sans espérer un retour sur investissement de quelque manière. Enfin, je veux dire, c'est d'abord une envie, un partage d'une esthétique artistique ou d'un engagement politique. Enfin, bref, politiquement politique artistique ou politique tout court. Enfin, je veux dire, après, je n'évoque aucune étiquette, mais c'est voilà. Je pense que c'est d'abord ça pour avoir été bénévole dans moult associations qui ne se ressemblent pas. Je le faisais pour apprendre, pour partager, et au final, je trouve que, enfin, moi, je suis très satisfait du retour sur investissement, mais il n'est pas tangible. Enfin, il est voilà. Bon, c'est un peu vaseux ce que je dis peut-être, non ?
Non, mais on a bien compris où vous vouliez en venir. Hein. Ça, y a aucun doute là-dessus. Ça a fait partie de votre construction aussi.
C'est ça, c'est la construction,
humain, quoi. Voilà.
Exactement.
Une autre intervention autour de bah voilà qu'est-ce que ça permet, pourquoi vous investissez dans tout ce tissu associatif, ouais. Catherine
Oui, je voudrais revenir à ce qu'a dit Odile tout à l'heure quand elle parlait du fait de ce que l'on pouvait avoir soi-même par les associations ou par d'autres choses, hein, il n'y a pas que les associations, mais aussi le désir de rendre à un moment, parce que ça me paraît important. C'est vrai que on apprend tous quand on vient dans une association, on rencontre, on partage, c'est riche. Je veux dire que venir dans une association, être dans un CA d'association, c'est riche. Donc, à un moment, pouvoir rendre aussi, je trouve ça bien. Je veux dire, l'association, c'est vraiment le contraire de l'égoïsme qu'on peut trouver dans certains endroits. C'est plus le partage, la générosité, l'humanisme, et c'est ça, en fait, que ça nous apporte.
Odile ?
Moi, je pense aussi, c'est faire en sorte que les choses aillent mieux, finalement, qu'on apporte du positif. Que ceux qui... pas forcément ont la possibilité de prendre les choses en main, puissent le faire à travers ce qu'on va leur proposer dans l'association. Donc c'est ça, pouvoir se regarder dans la glace en disant j'ai fait quelque chose pour les autres, c'est pas simplement pour mon petit bonheur personnel, mais j'ai apporté ma petite pierre à ce que la vie l'a le mieux, que la vie des uns et des autres aille à mieux, qu'il y ait moins d'injustice. Voilà, c'est important.
J'ai envie de dire, presque comme un slogan, c'est l'action à la portée de tous.
Ouais.
En fait, l'association, ouais, c'est l'action à la portée, ouais, de tous.
Tout à fait, tout à fait.
Oh, j'aurais dû faire publicitaire ou un truc du genre. Hein, je crois que je vais me reconvertir tout de suite. Hein. Il n'est pas trop tard. Victor, vous souhaitiez reprendre la parole? Vous hésitez? Si, allez-y, non. Vous savez pas. En tout cas, Sophie souhaite prendre la parole.
Non, mais je crois que c'est ça aussi le but des associations, c'est de fédérer des gens qui vont un petit peu dans le même sens, quels que soient les sujets qu'ils défendent. Et c'est la porte ouverte à tout le monde, et chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie, et s'il y trouve pas, il s'en va, et voilà.
Mais il y a cette liberté aussi, au bout d'un moment, c'est si j'y trouve pas mon compte, finalement, cet engagement bénévole associatif est cassable à mon bon vouloir aussi. Enfin, il y a cette notion-là aussi, qui n'a pas la même notion forcément dans la question de l'emploi, par exemple. On est tenu autrement. Non, mais c'est important à rappeler aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est engagé dans une association, à partir du moment où on ne le souhaite plus, les choses se mettent assez facilement en place. Victor ?
Je vous entendais dire quand j'étais encore dans la voiture que la MJC avait une, en quelque sorte une mission d'intérêt public, et c'est tout à fait le cas. Et je pense que utopiquement chaque association naît d'une idée d'utilité publique, de quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi, et alors qui émerge d'une idée, d'une envie totalement personnelle, parfois peut-être un peu égoïste, totalement. Parce que c'est exactement ça, et je l'assume totalement, hein, mais quelque part, se faire plaisir et partager son plaisir, c'est assez altruiste, enfin, dans l'idée. Hein, ça devient d'intérêt collectif, public, à partir du moment où on a des adhérents, à partir du moment où ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que même si le projet, enfin, même si tant est que le projet soit beau, magnifique, quoi que ce soit, s'il n'y a pas d'engouement autour de ça, ça ne sert à rien.
C'est qu'il était vraiment très personnel comme projet. Cécile, on parlait justement en début d'émission sur cette notion-là. Sur cette notion d'engagement, Philippe ?
Oui, je voulais dire qu'il peut y avoir un autre retour, c'est d'être amené à représenter son association. Et donc, à partir de ce moment-là, de se sentir porteur d'un collectif, de tous les gens qui ont travaillé là, je peux vous dire que ça peut aussi donner des ailes, et que c'est un retour qui est important, parce que on a quelque chose à défendre avec des gens qui sont pas toujours favorables, puis on essaie de gagner quand même. Mais je pense que c'est une partie importante dans la vie, que de pouvoir comme ça défendre ce que l'on aime.
Odile, voilà. Si on pouvait ramener un micro jusqu'à Odile, on l'a volé à Franck, c'est ça ?
Avant d'être traitée, j'étais DRH. Je faisais donc beaucoup de recrutement. Et j'avoue que celui qui savait me montrer qu'il avait un engagement associatif, bénévole, eh ben, il avait souvent un petit degré d'avance sur les autres en matière de recrutement. Parce que ça montre effectivement l'envie de prendre les choses en main. Donc là, le retour était vraiment en monnaie sonnante et trébuchante et en emploi.
C'était peut-être parce que c'était vous qui êtes sensible à cette question-là. Un autre DRH n'aurait peut-être
non,
pas été sensible.
Ça fait partie des choses qu'un employeur regarde effectivement. Alors bon, peut-être que ça dépend de l'association dans laquelle on milite, mais cette capacité de s'engager, de prendre des responsabilités, c'est un point très positif pour un employeur.
Je peux pas passer à côté d'une idée là depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'on s'appelle par les prénoms, c'est l'associatif. Non, je déconne, mais c'est ma façon de faire en tout cas. Mais depuis tout à l'heure, je parle à Philippe, je parle à Odile, je parle à Cécile. Vous m'enlèverez pas de l'idée que je suis obligé de faire un lien. C'est la même famille. Voilà, c'est Philippe Bordier, Odile Bordier et Cécile Bordier. Il y a aussi cette notion d'engagement. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'on se on est éduqué à base d'engagement et puis on en arrive naturellement à prendre des engagements ou rien à voir, c'est juste par le fruit d'un pur hasard avons une dynastie Bordier à nos micros.
Dynastie Bordier, bien sûr. Moi, j'allais demander justement le micro pour dire que moi, par contre, justement, comme j'étais la fille de et Philippe qu'on entend et Odile, j'ai pas eu le choix du tout.
Ah oui, c'est ça, il y a une notion, il n'y a pas eu le choix.
Ah non, moi, je me suis même jamais posé la question, en fait. Moi, je suis l'obélix du militantisme associatif, donc je le fais par obligation, hein, je continue, tant que mes parents sont là, je continuerai en fait.
De manière directe, c'est cet engagement-là qui a été comme modèle. Vous n'êtes peut-être pas posé la question, Cécile, mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Comme vous le disiez là, on était sur un mode rigolade où vraiment ça fait partie de la vie et puis c'est normal, il n'y a pas de question à se poser.
Alors, je disais ça en riant, mais bien sûr, ça fait complètement partie de la vie. Moi, je ne sais même pas comment vivre autrement que je pense que militer, c'est vouloir changer le monde à son échelle. Moi, c'est pour ça que je le fais, clairement. Alors, que ce soit en étant administratrice à la MJC ou dans les ballets Willimax ou représentante de la MJC à la L2E ou... Enfin, bref. Mais c'est pour changer le monde, à son échelle. Alors, je ne sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, moi, c'est impossible de faire autrement. En tout cas, ça, c'est sûr.
Je pense que c'est une belle vision
de la société, ouais. L'association, avec effectivement des gens qui sont différents, qui sont là pour des raisons, parfois pour des mauvaises raisons. C'est pas grave, ils sont là quand même en fait, et ils font des erreurs, parfois ils disent n'importe quoi, on fait aussi n'importe quoi, on voit bien que des CA mènent, enfin ce sont des gens humains justement,
ordinaires. Ah bah voilà que vous y venez à cette notion-là. Justement, cette notion l'erreur qui est formatrice et en tout cas les terrains d'expérimentation que proposent les milieux associatifs. Non, il y avait Victor, Odile. Alors, sauf si Odile voulait répondre, sauf si maman voulait répondre, je me permets. Là, du coup, maintenant qu'on a tout dévoilé, excusez-moi, non, Odile.
C'est vrai que c'est assez naturel, mais moi, j'avais aussi des grands-parents qui étaient militants, des parents qui faisaient des choses. Donc, ça faisait partie des choses naturelles. Avec Philippe, on s'est mariés à la MJC, d'ailleurs. Hein, donc...
Ah oui, c'est pas par hasard, là.
et moi, ce qui m'avait plu, c'est que justement, parce qu'il était très engagé, quoi. Donc, c'était pas parce qu'il faisait rien, quoi. Donc, voilà.
On est sur cette question-là. Après, je vous promets, Victor, on vous passera la parole. Je vous promets. Pardon, c'était pour compléter.
Oui. Je voulais aussi aborder la question de l'engagement parce que on parle d'engagement associatif, c'est le thème de l'émission. Il y a d'autres engagements. Il y a l'engagement politique. Hein, la différence dans l'engagement associatif, même si c'est très politique comme démarche, c'est que c'est plus égoïste. On va dans un domaine qui nous plaît. Ça peut être la musique, ça peut être l'éducation populaire, ça peut être les musiques contemporaines expérimentales. Et puis il y a Laura qui est derrière le comptoir là-bas, qui a un autre engagement qui est plus moderne, celui-là, qui est l'engagement de service civique, qui est une autre forme d'engagement. Mais on a cette thématique qui est commune dans tout ça. Donc de faire pour, de cette notion d'engagement qui est quand même essentielle. Voilà.
Et c'est peut-être pas non plus anodin si au bout d'un moment l'engagement de la MJC favorise aussi l'engagement d'autres jeunes ou autre chose. C'est aussi une fabrique alors citoyen, c'est un peu ça veut tout dire et rien dire ce mot-là, mais en tout cas c'est une fabrique à personnes qui vont s'engager, qui vont réfléchir, qui vont se poser des questions, et on l'espère trouver les moyens d'action de cette réflexion éventuellement à travers le système associatif ou autre.
C'est ce qu'on souhaite. On rêve que les adhérents de la MJC viennent parce que c'est une MJC, qu'ils viennent pas parce que c'est juste moins cher qu'ailleurs ou parce que le sol a été refait, quoi. Enfin, je veux dire.
D'ailleurs, c'est une réussite, hein, ce sol.
Mais le sol a été refait. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de faire. Ressentir cette notion-là. Il y en a qui comprennent même pas ce que c'est que l'adhésion. Quand on leur dit vous avez le tarif de l'activité et l'adhésion, ben oui, donc le tarif, c'est ça au global. Ben non, c'est deux choses différentes. Donc effectivement, c'est pas toujours... ça se perd ou ça s'est perdu. Il y a peut-être des...
Ou tout le monde juste n'est pas réceptif à ce fonctionnement.
Je ne sais pas si tout le monde n'est pas réceptif, parce que c'est vrai que l'engagement associatif, alors je ne suis pas un expert, hein, mais il y a quand même beaucoup d'associations qui se créent régulièrement, des petites, donc ça reste quelque chose qui est quand même reconnu. Mais je trouve que nos élus politiques au niveau national ne mettent pas assez en valeur l'engagement associatif ou les associations et ce que ça représente, ce que ça doit représenter en tout cas.
On passe la parole à Victor qui la réclame depuis un petit moment. Sur cette notion d'engagement, et alors là pour le coup, vous étiez en train de nous faire voir que bah, effectivement l'engagement ça ne s'invente pas pour vous.
Alors non, mais pour rebondir
sur... Vous voulez parler d'autre chose, allez-y.
Non, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Raphaël, il y a plusieurs choses. Déjà pour moi, le service civique, c'est effectivement une autre forme d'engagement. Mais à côté de ça, il faut quand même pas non plus se voiler la face. C'est aussi, d'une part, un refuge pour ceux qui veulent se professionnaliser dans le monde de la culture, mais qui n'arrivent pas à trouver des postes solides. Et en même temps, une porte ouverte très arrangeante pour ceux qui peuvent proposer un poste, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'accueillir quelqu'un en CDD. Mais ça c'est encore un autre sujet.
Je ne vous laisserai pas répondre, Raphaël, parce que nous n'aurons pas le temps.
C'était une sorte d'aparté qui n'avait aucune attaque envers toi, Raphaël. C'est de manière générale. Je fais partie.
Mais je me permettais, c'est parce qu'il avait pas l'air tout à fait d'accord. Donc je ne donnerai pas le droit de réponse. J'en suis désolé, Raphaël.
Et je conçois totalement qu'on n'ait pas tous la même opinion sur ce sujet. Mais en tant que je fais partie de la jeune génération qui est en train de se professionnaliser dans les mondes, dans les mondes de l'art, de la culture. Je sors de la même formation avec Laura de cette année. Donc, on cherche tous un travail et on cherche tous des services civiques puisqu'il n'y a pas de travail. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a aucun hic et ce n'est pas un point noir, c'est justement une opportunité et comme on dit, ça a le mérite d'exister. C'était la première chose.
Alors je me permets juste, sans donner la réponse à Raphaël, forcément, à Principe Actif, nous avons aussi accueilli des services civiques et globalement, les profils sont tellement différents qu'on peut pas trouver une niche ou pas, ou je ne sais quoi. En tout cas, il y en a qui viennent vraiment pour chercher soit un débouché professionnel, soit un engagement qu'ils veulent valoriser, soit certains, effectivement, qui cherchent une professionnalisation, soit certains qui viennent tester un métier, soit certains qui viennent développer des axes de réflexion qu'ils ont envie de mettre en place et qui ne fait pas un métier pour autant. Voilà, je me permets juste de dire ça. Je suis désolé, Raphaël, vous n'aurez pas la réponse à ça, mais je voulais juste permettre de remettre ça en perspective et qu'on passe au sujet d'après. En fait, on est tenu par le temps.
Tout à fait raison. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Raphaël. Donc, autre chose, quand il parlait du fait que le mot adhérer, la conception du mot adhérer, apparemment, tu as rencontré beaucoup de monde qui ne savait pas ce que c'était. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est, on est aussi dans une époque d'entre-soi et où il se passe beaucoup moins de choses, où on vit pour soi de manière individuelle, juste avec son petit réseau, et qu'on ne sort plus, qu'on n'a plus cette envie de découvrir. Et c'est là où je rebondis encore sur autre chose, c'est que finalement, si nous tous, alors que pourtant on ne se ressemble pas forcément, on est autour de cette table, c'est parce qu'il y avait c'est pas un réseau, c'est des racines. Vous voyez, par exemple, pour les Bordiers, il y a des racines. Moi, c'était mon oncle qui était le vilain petit canard de la famille, et pourtant, je l'ai suivi. Voilà, je pense que c'est plus dans l'air du temps. Et en même temps, ça fait partie d'un réseau. Je sais pas.
Mais c'est justement parce qu'on n'est pas forcément dans la même ligne, dans les mêmes raisonnements et dans la même opinion que. C'est juste pour ça que c'est intéressant qu'on se croise. Hein. Si on était tous d'accord, autant qu'on aille directement au bar. Cécile.
Moi, je me demandais si ce qui n'était pas commun à toutes les associations et le retour un peu sur investissement du bénévole, c'était la réussite du projet. Alors que ce soit, parce que ça c'est hyper satisfaisant de participer à quelque chose ensemble, et que ce soit un concert, que ce soit un fanzine, que ce soit une activité musique, que ce soit des films, quand ça fonctionne, quand les gens adhèrent justement au projet et sont présents, et que je pense que ça c'est peut-être ce qui est commun à toutes, quand une radio est écoutée, donc c'est la réussite du projet, quel qu'il soit. Je pense que c'est satisfaisant pour chacun de voir qu'on participe à un projet qui réussit. Et voilà.
Très bien. Si Sophie, vous souhaitiez reprendre la parole.
Oui, et j'allais dire aussi qu'ils contentent et qu'ils font plaisir aux gens qui nous suivent, surtout pour ça.
Oui, j'imagine. Et là, je me permets de revenir
dans
juste un peu
en
arrière. Par exemple, pour une association comme Venus in Fuzz, que Olivier vous présentiez comme une petite structure jeune. Enfin, vous avez utilisé deux termes, jeune et petite structure. J'imagine que
c'était pour la structure de l'association.
Oui, j'avais pas précisé, Olivier. En tout cas, par exemple, j'imagine que la semaine dernière, vous étiez sur un événement autour d'un concert, sur attention de 77 à 79, je crois de mémoire, les reprises punk. C'est ça, sur une soirée que vous avez animé au Cube.
C'était pas l'âge des participants.
Non, c'était pas l'âge des participants, c'était les années des reprises punk. Enfin, on va pas revenir sur le détail en tout cas de cette soirée, mais j'imagine que quand on voit autant de monde, parce que nous étions, il y avait énormément de monde, c'était ce qu'on appelle, je sais pas si c'est complet ou pas complet, la question n'est pas là, mais en tout cas c'était plein, ça a fonctionné, les gens étaient heureux, ils avaient tous le sourire. J'imagine que pour une structure comme Venus in Fuzz, ouais, clairement là c'est le salaire.
Ouais,
là.
C'est une grande satisfaction, et c'était aussi une cette soirée là ça se voulait rassembleur et fédératrice, quoi.
C'est pas parce qu'on le veut que ça fonctionne.
Oui,
il suffit pas de le décréter.
Non, c'était justement aussi pour voir si ça touchait les gens, si les gens avaient envie de faire quelque chose ensemble, parce que c'était pas... Nous, on était plutôt le rassembleur, enfin le ciment du truc, quoi.
Ah, mais du coup,
on demandait aux gens de venir et de se dire, on va faire quelque chose ensemble.
C'est
ça. En plus, là, il y avait une idée aussi de s'approprier un endroit qui est public sans forcément l'être, mais c'est pour montrer qu'il y a des gens à l'extérieur qui sont pas que forcément spectateurs de ce bâtiment.
De manière un peu triviale, là, ça doit être un kiff quand même, après, à la fin de la soirée, quand ça a été rempli, que ça a bien fonctionné, que tout le monde s'est amusé, qu'il y a des retours plutôt positifs, Olivier, à moins qu'il y ait les retours m'échappés, mais c'est très positif, et il y a eu du monde.
Juste un petit départ précipité à la fin.
Mais, mais sur le global, j'imagine que ça doit être à ce moment-là, on s'installe, je ne sais pas si vous êtes installé entre membres de l'association, entre deux, mais ça doit être un petit peu le moment de... Bah voilà, on est dans notre mission.
Oui, on a réussi, fêté ça un petit peu juste après.
C'est réussi, ouais.
On va se rencontrer bientôt pour en parler plus sereinement.
J'imagine que ça doit être une satisfaction quand même. Ça doit être un bonheur aussi, là, quand on parlait tout à l'heure de retour aux bénévoles.
Un bonheur de voir que les gens nous suivent et qu'il y a un public qui attend ça. Et que, à notre niveau, c'est pas pareil que les associations qui sont un peu plus dans le social, mais ça doit être pareil pour eux de pouvoir proposer... de la culture, du sport, des loisirs, des abris, c'est un lien social aussi.
Et, voilà.
Et c'est vrai que quand ça marche et que les gens sont contents, on est contents aussi.
On peut se le dire aussi au bout d'un moment qu'on est contents. Odile, vous souhaitiez prendre la parole. Enfin, je dis ça, là, je me permets, mais on a le droit de se le dire au bout d'un moment qu'on est contents et puis que c'est un kiff, quoi.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a une exigence, c'est qu'on soit toujours un peu dans l'avenir. C'est se dire, demain, qu'est-ce qui va faire qu'on va être encore meilleur, que ce qu'on a, qu'on puisse proposer encore quelque chose qui fasse plus plaisir, qui fasse plus avancer. Et donc, il faut vraiment se creuser les méninges tous les ans pour avancer.
Cécile, vous souhaitiez prendre la parole ? Ah non, j'ai cru. Il nous reste une petite minute avant la conclusion. Une prise de parole peut-être autour de la table. Catherine, là, il n'y a même plus de questions, c'est freestyle. Hein. Il nous reste une minute trente.
C'est juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure quand on a parlé de politique, parce que moi, j'ai eu l'autre rôle, puisque...
Vous étiez élue à la culture,
À la culture, et on a parlé aussi du fait que les politiques ne donnaient plus la place aux associations. Et moi, je pense qu'il est important pour les politiques de ne pas avoir peur des associations et de pouvoir faire le lien entre les associations et certains services qui existent dans la cité. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé, par exemple, pour qu'il y ait le conservatoire qui soit rapproché de la MJC, parce que pour moi, c'était deux institutions qui pouvaient se rencontrer, étant donné qu'il y en avait une qui présentait une certaine forme d'éducation musicale et l'autre une autre forme d'éducation musicale. Mais à la fin, l'important, c'est que tout le monde se retrouve sur la musique et que chacun puisse, à partir d'où il est parti, peut-être d'avancer encore plus. Donc voilà. Et j'ai aussi participé à la musique chiante à ce niveau-là. Bien que.
Et Franck, c'est bien fait pour vous, c'est vous qui l'avez présenté comme ça.
Franck croyait que je ne le ferais jamais, mais j'ai quand même participé à la musique chiante.
Non, mais ouais, ok. C'était super, ce soutien qui s'est perduré avec une autre municipalité. Le seul truc, c'est qu'il faut considérer qu'à un moment donné, sur une association, quand t'as 1000 balles, 1000 euros pour faire des choses, je veux dire, 1000 euros, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec 1000 euros aujourd'hui pour produire des choses ?
Ah bon, on n'a plus rien, mon brave
donc,
monsieur.
Catherine, super. Tu vois, quand il y a un moment donné où, au-delà de la demande de subvention, parce que je vais faire une petite aparté, vite fait.
Sauf que là, rapide. Il reste 10 secondes à peine.
Hein. Ah bon, bah non, alors je vais pas faire l'aparté.
Non, mais juste en deux mots, qu'on ait l'idée en tête.
En deux mots, moi, en 90... Non, je pourrais pas.
Non, d'accord. Bon, bah alors, on n'ouvre pas une nouvelle porte maintenant, ce sera pas possible. Odile, vous souhaitiez reprendre la parole. On va conclure après avec Laura. On conclut, Laura et moi. Odile, vous vouliez prendre la parole entre deux ? Non, c'est nickel. Voilà Laura, nous arrivons au terme. Je suis désolé, on coupe vraiment sauvagement là. Hein. Mais bon, on est pris par le temps. On aura poussé la discussion juste là. Voilà, je suis avec Laura. On vient de finir donc ce premier volet avec toi, très cher, de ces soirées rencontres, échanges, débats, mise en accord, mise en désaccord. En tout cas, on a fait bouger les idées. C'est une chose qu'on va refaire ou pas, Laura ? Comment ça se goupille tout ça ?
Oui, tout à fait. Normalement, une fois par semestre, par trimestre. Pardon.
Oui, parce que c'était par semaine, là, j'étais pas au courant.
Une fois par trimestre. Et donc, la prochaine fois, entre février et mars.
Eh ben, le rendez-vous sera pris. Il y a des idées de thèmes, des trucs qui sont revenus ou pas, là. Des gens t'ont dit « Ouais, faudrait parler de ci ou de ça. »
Alors ça, on dévoile rien du tout pour le moment. Ce sera la surprise.
Ah d'accord, pour nous aussi alors.
Exactement.
Très bien. Tu nous avais concocté une liste d'invités. Je veux bien que tu nous les désannonces, ces invités, et que tu nous dises un petit peu le pourquoi du comment et comment ça s'est goupillé, cette histoire. Est-ce qu'ils sont sympas, en fait?
Bah oui, bien sûr. Donc déjà, ouais, je tenais vraiment à vous remercier tous d'avoir répondu présent ce soir. Alors, donc à Venus in Fuzz qui était présent, l'accueil des villes françaises également, donc avec Françoise, les jeunes cinéastes hébroïciens, Odile et Philippe Bordier et Cécile Bordier, la famille complète, et Franck
Dubois.
On a
dit que c'était une dynastie, hein, carrément. Hein. Pour la MJC, notamment Philippe et Cécile.
Et Raphaël également.
Voilà.
Et du coup, Franck Dubois est aussi pour l'atelier.
Eh ben c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup à toi, Laura, de nous avoir concocté cette émission. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, nous, à Principe Actif, à part tchatcher là comme ça ensemble, on n'aura pas fait grand-chose en amont. Hein. C'est Laura qui se sera chargée de tout. Merci à toi, Laura, pour cette coproduction. Tu vois, finalement, on est bien sur ce canapé, non, à discuter.
On est génialement bien.
Eh ben voilà, c'est super. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ces échanges. Donc, le rendez-vous, c'est le prochain trimestre, si j'ai bien tout suivi. Nous, on vous laisse à l'antenne avec l'excellentissime émission menée par le professeur Redo et notre ami Pick Up. Et c'est justement l'émission Pick Up dans vos oreilles.